France Culture.
Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit.
Attention les yeux, une histoire du flash. La photographie, par son étymologie, est l'écriture de la lumière avec le grec photo. Et puisque la plaque est photosensible, l'aventure photographique a besoin de lumière. L'histoire du flash, donc, tel est notre objectif.
Pour moi, la photographie est un moyen de dessiner. Et dans le fond, s'il n'y avait pas une exigence de communiquer, de montrer aux autres ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, enfin de témoigner sur notre monde, sur notre époque, n'est-ce pas ? Mais je m'amuserais tout autant si je n'avais pas de film dans l'appareil.
Le cours de l'histoire.
Pour moi, la grande jouissance, c'est d'être devant un sujet, hop, qui s'impose à moi, hop, n'est-ce pas ? Et puis d'avoir appuyé au bon moment. Et ça, c'est une fraction de seconde, et c'est le seul moment de création. C'est le pourquoi qui est intéressant. C'est de saisir les choses à la charnière. Il faut se débarbouiller toutes ces idées préconçues, tous les clichés. Il faut laisser le sujet vous imprégner.
Henri Cartier-Bresson, le grand photographe qui évoquait ce moment fugace, celui de la photographie. Daniel Polignard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien de la photographie, professeur à l'Université Paris-Cité. Stéphanie Barbier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur en histoire de l'art et attachée d'enseignement et de recherche à l'Université de Lorraine. Et Flora Tribel, bonjour.
Bonjour.
Conservatrice du patrimoine, chargée des collections de photographies anciennes à la Bibliothèque Nationale de France. Bah, ça tombe bien que vous soyez là. Grosse collection à la Bibliothèque Nationale de France de photographies.
Mais collection majeure, première collection publique française, à la fois historiquement, puisque la première épreuve entre en 1851, et collection majeure aussi en volume, je peux dire, puisque nous conservons aujourd'hui environ 7 millions de phototypes. Donc c'est quand même un océan d'images qui est conservé à la Bibliothèque Nationale.
Ça en fait des albums. Et la première photographie qui utilise le flash, est-il possible de la trouver, de la dater ?
Oui, alors la première photographie qui utilise le flash, elle est, ou en tout cas les premières expérimentations autour du flash, elle se trouve, les corpus se trouvent partagés entre la Bibliothèque Nationale et la Société Française de Photographie, puisque ces premières expérimentations sont menées par Félix Nadar, qui est un photographe portraitiste qui, à la fin des années 1850, veut expérimenter les lumières artificielles.
Oui, parce que c'est la photographie, hein, c'est de la lumière, c'est l'écriture de la lumière. Daniel Folliard, l'idée même de se passer de lumière n'est pas concevable en photographie. Et dès lors, tout l'enjeu, c'est comment peut-on créer de la lumière aux origines de la photographie, ce n'est que de la lumière naturelle.
Absolument, mais c'est pas évident pour les premiers développeurs, inventeurs de ces technologies-là et les premiers praticiens, en fait, hein, puisque il y a cette idée quand même que l'appareil photo, c'est une sorte de réceptacle passif de la lumière naturelle. Donc, basculer vers une intervention à la lumière artificielle, ça répond aussi à des impératifs qui peuvent être purement économiques. Flora parlait de Nadar, il y a un besoin. Alors là, on est en janvier à Paris, il fait nuit très tôt, et les portraitistes ont aussi besoin de lumière artificielle pour continuer à faire fonctionner leur studio. Et qu'il y a aussi une dimension un peu capitalistique, hein, dans ces expérimentations-là, pour s'assurer qu'on puisse réaliser... Parce que le portrait, c'est quand même le marché numéro un des débuts de la photo. C'est ce qui rend Disdery millionnaire, c'est ce qui permet à Nadar vraiment d'avoir ce magnifique studio à Paris. Et à Londres, à New York et dans toutes les grandes capitales de l'invention de la photo, manipuler la lumière, la maîtriser, c'est aussi une manière de pouvoir gagner de l'argent en fait et de fonctionner en permanence.
Mais merci d'écrire cette histoire de la photographie dans une histoire économique, parce que bien souvent nous pensons à l'art, nous pensons aussi à cet aspect très technique, ce temps des inventeurs, mais non, c'est aussi de l'économie. Et dès lors, la photographie a besoin de lumière, car c'est du portrait, donc qui doit se réaliser en plein jour, c'est ça. L'idée, c'est d'avoir un local avec des grandes verrières, ce serait l'idéal.
Oui, les premiers ateliers apparaissent en haut des immeubles, sous des verrières. Et très vite, les photographes, et notamment Nadar, par exemple, qui crée son atelier d'abord rue Saint-Lazare, puis ensuite boulevard des Capucines, où il ouvre un atelier tout à fait spectaculaire, avec une décoration spectaculaire. Il y a une fontaine à l'intérieur de son atelier. Il y a des salles d'attente très, très décorées, avec des tableaux. Donc, c'est vraiment un lieu spectaculaire. Mais il faut aussi pouvoir faire vivre économiquement un tel endroit. Et pour cela, il va faire ses recherches sur la lumière lumière artificielle qui intervient à deux moments. Enfin, l'emploi de la lumière dans l'atelier, elle intervient à deux moments. Au moment de la prise de vue, pour réaliser votre portrait, effectivement, vous avez besoin de lumière, puisque plus votre temps de pose sera court, plus votre temps d'exposition sera court, plus votre client sera net sur le portrait. Et puis, vous avez aussi besoin de lumière à un autre moment qui est fondamental, qui est le moment de tirage, puisqu'à ce moment-là, les tirages sont faits à noircissement direct, sur des papiers à noircissement direct. Ça veut dire que vous devez exposer votre négatif contre le positif à la lumière pour pouvoir réaliser cette opération de tirage. Évidemment, plus il fait gris, plus vous allez mettre du temps à réaliser ce tirage, plus vous allez seulement devoir travailler le jour et pas la nuit, puisque si vous n'avez pas de lumière artificielle, quand vous n'avez plus de lumière, vous ne pouvez plus travailler, plus cela constitue de contraintes pour les photographes et les ateliers.
Daniel Folliard.
Il faut replacer cette exploration à la lumière artificielle dans un peu le combat du 19e industriel contre la nuit et l'obscurité. Ça s'inscrit vraiment dans ces technologies, alors que ça va de l'éclairage des rues à l'électrification à fin 19e, début 20e. C'est vraiment une histoire de la redéfinition de la nuit et de ce qui est obscur, fondamentalement. Et ça s'inscrit dans une histoire plus longue, on y reviendra peut-être au fil de l'émission, parce que esthétiquement, c'est vrai que plus la lumière va devenir puissante, plus les images produites vont s'inscrire dans une histoire longue de ce qu'on pourrait appeler le clair-obscur aussi. Hein. C'est une redéfinition de la nuit en tant qu'objet du quotidien, mais aussi en tant qu'objet esthétique.
Avec ce personnage de Nadar, qui a son atelier équipé de belles verrières, c'est formidable ça, pour réaliser des portraits, sauf que Nadar, lui, cherche toujours l'exploit, aller plus loin, plus bas aussi, jusqu'aux catacombes.
Patron ? Patron ?
Je suis là, Pretorius, n'aie pas peur.
J'ai pas peur, mais je suis pas rassuré. Franchement, patron, est-ce que ça ne vous suffisait pas de voler dans les airs ?
Je suis comme ça, mon petit vieux. J'aime aller où les autres ne vont pas.
Madame Ernestine a bien raison quand elle dit que le monde des gens ordinaires est trop petit pour un homme comme vous.
Mais c'est pourquoi nous sommes là, Pretorius. Nous sommes là pour agrandir le monde. Et grâce à nous, les gens vont voir ce qu'ils n'ont jamais vu. Car nous sommes ici pour faire la lumière sur les entrailles de la Terre.
Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de faire ça sans aller réveiller les morts ?
Il s'agit de les photographier, pas de les réveiller. Enfin, sauf surprise, évidemment.
Ah !
Quoi ?
Rien, j'ai cru que c'était un rat.
Bon, je t'explique en gros comment j'imagine les choses. Vu qu'il nous faudra une énorme quantité de piles benzène, sans compter les réflecteurs, on utilisera des wagonnets pour les transporter.
Au moins, l'avantage ici, c'est que vos modèles ne risquent pas de bouger.
Ah, c'est ce qui m'embête, justement. J'aurais bien voulu photographier des ouvriers au travail, ne serait-ce que pour donner une idée de l'échelle.
Mais il faudrait un temps de pause d'au moins 20 minutes.
J'y ai un peu réfléchi, figure-toi. Et je me suis dit qu'on pourrait peut-être utiliser des mannequins. De toute façon, ce sera long. En tout, il faut prévoir plusieurs semaines de travail.
Autrement dit, il va falloir que je me fasse une raison.
Nadar, photographe dans les catacombes, une fiction radiophonique sur France Inter, avec l'idée que pour Nadar, il y a la volonté d'aller toujours plus haut. Il photographie depuis des montgolfières, et puis sous terre. Alors là, il y a besoin de lumière, il y a besoin de lumière artificielle, de flash. Comment apparaît ce flash ?
Alors, il faut dire effectivement dans la continuité de cet extrait que Nadar, c'est une personnalité de la bohème parisienne tout à fait exceptionnelle, parce que c'est un homme qui est très grand, très roux, qui est toujours vêtu d'une veste rouge, donc c'est vraiment quelqu'un qui ne veut pas passer inaperçu et qui s'est effectivement lancé dans l'exploration aérienne du plus lourd que l'air et à la fin des années 1850 dans ses lumières artificielles, notamment, alors, grâce au travail d'un ingénieur qui s'appelle Victor Serin, qui a mis au point un régulateur de l'énergie des piles benzène. Et c'est grâce à ce régulateur que Nadar va pouvoir réaliser des prises de vue dans les catacombes où il est invité à descendre en 1862. Il va associer ce régulateur Serin aux premières poudres de magnésium. Et c'est l'association de ces deux lumières artificielles qui va lui permettre de réaliser ces photographies qui sont les premières photographies sous terre et les premières, parmi les premières photographies aux poudres de magnésium.
Alors cette exploration souterraine, c'est vraiment quelque chose de très présent dans les débuts de l'utilisation de la poudre magnésique. Poudre magnésique, enfin, expérimentation magnésium, qui sont aussi le fait du même benzène, hein, qui est cet inventeur un peu qui touche à tout. Enfin, les gens se souviennent peut-être de leur cours de chimie et du fameux Bec.
Oui, c'est vrai, c'est ça qui me venait en tête. Oui,
et donc il y a cette conjonction de ces deux manières d'éclairer. Il faut savoir que la poudre magnésique, alors benzène au départ, il développe plutôt un filament. Hein, c'est du magnésium quasi pur qui, à sa combustion, va créer une lumière très blanche qui ressemble, qui est une des lumières les plus proches artificielles qu'on peut appeler les plus proches de celles du soleil. Et cette exploration des mondes souterrains, on va la retrouver dans les années 1860. C'est quelque chose, une sorte de révélation qui obsède aussi des gens comme Jules Verne, etc. Parmi les premières expérimentations assez étonnantes à la suite de Nadar, c'est un monsieur qui s'appelle Charles Piazzi-Smith qui part en Égypte, qui, dans les grandes pyramides de Gizeh, va prendre des photos au magnésium de l'intérieur des chambres funéraires des pyramides. Ça va être vendu sous forme de plaques de lanterne magique. On a une sorte de magie, un petit peu, de ces mondes obscurs qui, tout d'un coup, deviennent révélés. Et comme la photographie, c'est quelque chose de facilement reproductible, il y a une sorte de conjonction des technologies qui permet de regarder des mondes qu'on ne voyait pas.
Donc là, c'est l'idée de mettre sur une petite plaque un peu de poudre. C'est allumé quoi, avec une étincelle, avec du feu.
Alors voilà, il y a différentes techniques. Dans les années 1870-1880, on va avoir une baisse du coût du magnésium avec la photopoudre. Au début, c'est quand même très cher. Mais oui, il y a une combustion qui peut être plus ou moins rapide. Hein. C'est pas forcément le flash que vous imaginez, comme dans les films, avec une sorte d'énorme explosion. Ça peut être ça aussi. Mais on va avoir des combustions qui peuvent durer 2-3 secondes ou un éclair magnésique très puissant.
Oui, voilà, c'est cette idée d'éclair avec cette vive lumière. Stéphanie Barbier, vous avez réalisé votre thèse qui s'intitule « Des plasticités de l'optique en photographie 1890-1957 ». C'est une thèse réalisée à l'Université Paris en Panthéon-Sorbonne sous la direction de Michel Poivert. En étudiant les publications, est-ce que l'on voit trace de ces innovations? Parce que nous évoquons beaucoup de parcours individuels, de volontés qui parfois s'approchent du bricolage, et puis il y a quand même une théorisation de la chose. Ça apparaît dans les sources tout cela?
Alors oui, c'est-à-dire que les photographes eux-mêmes écrivent beaucoup hein, sur ces innovations, en particulier dans la presse spécialisée. On trouve à la fois la manière dont fonctionnent les différents dispositifs, comment les améliorer, quels sont les manques, etc. Donc la presse spécialisée va vraiment relayer hein, les nouveaux usages, les nouvelles techniques. Évidemment, les traces qu'on peut avoir, c'est aussi les brevets hein, que vont déposer certains protagonistes de cette histoire hein, du flash. Donc à partir de ces brevets, on va pouvoir à la fois donc dater les inventions, identifier un certain nombre hein, de ces protagonistes, et évidemment pour que l'usage hein, de ces dispositifs circule à la fois parmi les professionnels et parmi les amateurs, on va voir apparaître hein, je dirais autour donc dans cette milieu du 19e siècle hein, un certain nombre de manuels, et donc les manuels de photographie hein, vont permettre hein, de comprendre comment fonctionnent ces dispositifs.
Avec ici la volonté pour certains d'en vivre, ça c'est une chose, et puis surtout pour tout le monde d'améliorer sa pratique. Et on le sent bien, on est sur une histoire internationale, bien sûr, une histoire faite de nombreux échanges. J'imagine que partout dans le monde, on observe ce qui se fait ailleurs et on essaye d'améliorer cette idée de flash. On retrouve cela ?
Il y a un vrai réseau de savoir sur la photographie. Il y a plusieurs journaux qui sont publiés à Londres, à Paris et ailleurs, avec un monde photographique international qui communique énormément sur ces découvertes, qui bouge aussi beaucoup, qui se raconte, qui font partie aussi des héros de la modernité du 19e. Donc quelqu'un comme Nadar, c'est aussi une figure des caricatures. Et comme le flash, en plus, a une dimension pyrotechnique, quasiment de l'ordre du cirque et de l'ordre de l'événement, il va aussi prendre enfin l'explosion magnésique va prendre aussi une place comme ça intéressante dans l'espace public.
Oui, parce que Flora Tribel, faut le rappeler quand même, ce moment de la photographie, déjà, c'est un moment d'exception, parce que la photographie, on le sait bien, c'est une invention récente. Alors, on peut prendre plusieurs dates, mais si on retient 1839, c'est déjà pas mal avec Daguerre. Mais voilà, le moment photographique, c'est fou. C'est aller chez un photographe, voir un appareil qu'on ne connaît pas. Et si l'on ajoute à cela le flash, c'est exceptionnel. Odeur, fumée, enfin, c'est une vraie expérience sensorielle.
Oui, la photographie, ça représente un vrai choc pour les contemporains. On le voit à travers les publications de l'époque, dans les correspondances, dans les récits qui sont faits. Et le flash ajoute ce côté assez spectaculaire de la fumée, de clair, du danger, parce que c'est une mise en péril du photographe quand même, la réalisation d'une photographie au flash. Il y a quand même, dans cette histoire qu'on raconte, il y a des aspects économiques, mais il y a presque des aspects médicaux, puisqu'il y a d'abord les photographes qui incendient leurs ateliers, qui ont des doigts abîmés. Il y a l'effet flash, mais il y a aussi l'effet des chimies qui sont utilisées. Donc c'est une profession relativement dangereuse, en fait, dans cette seconde moitié du 19e siècle. Et effectivement, l'imagerie, l'iconographie qui est ouverte aussi par la photographie et notamment par le flash, permet de voir, comme le disait d'ailleurs Nadar, ou le représentant de Nadar dans l'extrait que vous passiez, permet de voir des lieux qui n'ont jamais été vus ou jamais été diffusés par la photographie. Et c'est d'ailleurs pour cela que l'ingénieur qui s'occupe des catacombes fait appel à Félix Nadar, parce qu'il voit circuler des lithographies qu'il trouve de très mauvaise qualité qui représentent les catacombes, et se tourne vers Nadar en lui disant « je veux des belles images ». Produisez-moi un corpus de photographies qui soit capable de rendre aussi la nature de ces lieux obscurs et rendre le travail en même temps qui est fait par les employés qui, à ce moment-là, ont pour charge en réalité de remettre en forme tous les eaux qui tombent, qui sont déversées dans ces catacombes.
Les eaux des ossements.
Exactement, pardon.
Daniel Pollier.
C'est ça la difficulté en fait avec la photo, c'est qu'on n'entend pas les bruits. On ne sent pas les odeurs qui sont créées par l'explosion magnétique. Tout cet aspect sensoriel que vous évoquez, il est très présent dans les témoignages de l'époque, comme un événement tout à fait spectaculaire. Dans le numéro de Photographica qu'on a dirigé avec Hélène de Larmina, on ouvre sur une photo assez extraordinaire d'un opéra de Wagner au Metropolitan Opera de New York, avec une explosion magnétique qui éclaire toute la salle. Donc il y a quelqu'un sur la scène de l'opéra. Donc on inverse un peu les regards. Hein. Le spectacle, ce sont les spectateurs, où là on imagine une explosion absolument fabuleuse qui a dû aveugler tous les gens du premier rang. Et Flora a évoqué le danger, il est réel, hein, le magnésium, ça brûle de manière continue. Donc si ça tombe sur votre veste, c'est très difficile à éteindre. Et en l'occurrence, des fois, il y a vraiment des événements qui sont quasiment de l'ordre de la destruction. Une des premières photojournalistes aux États-Unis, il y a toute une génération de femmes qui se saisit de cette technologie assez tôt. Et il y a une des premières photojournalistes qui travaille à New York qui s'appelle Jessie Tarbert Beals, qui faisait pas mal de photos de nuit au magnésium. Et un jour, elle veut photographier la sortie d'un théâtre, encore, parce qu'il y a une relation assez puissante entre le magnésium et le théâtre, notamment en termes de pyrotechnique d'éclairage. Donc elle est dans la rue, elle fait une mauvaise dose de magnésium, ça explose tellement que toutes les vitres autour du théâtre ont explosé, et les gens ont cru à une attaque anarchiste à cause de l'explosion magnésique.
Ah oui, c'est extrêmement dangereux la photographie avec un flash photographica. Hein. C'est cette revue pour le numéro d'octobre 2025, aveuglé pour voir flash et révélation. Mais c'est ça le progrès aussi. C'est Nadar qui écrit à Nadar, enfin le fils qui écrit à son père.
Tu n'as pas suivi la marche du progrès qui te fait envisager les choses de la même façon qu'il y a 20 ans. Tout le monde faisant de la photographie et certains amateurs en faisant vraiment pas mal, on aime mieux une partie de plaisir chez eux et une épreuve un peu moins bonne, il est vrai, mais qui a l'avantage de ne vous coûter rien. Pour les portraits d'enfants qui rapportent beaucoup, on aime même mieux souvent une épreuve médiocre qui les représente dans leur attitude et dans leur milieu, et on renonce beaucoup à les conduire chez le photographe pour ces raisons. Jamais dans le monde photographique on n'a vu une telle pénurie d'affaires.
Telle pénurie d'affaires. Nous étions le 2 mai 1891 avec cette lettre de Nadar à Nadar, donc père au fils. Dites-nous, ici, nous sommes dans un moment où la photographie s'intéresse à l'innovation, c'est-à-dire photographier des choses qui n'avaient jamais été vues. On pense aux catacombes, on pense aux tombeaux égyptiens. Les portraits, bien sûr, parce qu'il y a cette vraie demande. Mais tout ce que vous nous dites là, avec ce flash au magnésium, fait extrêmement peur. Il y a déjà la volonté de trouver quelque chose de plus efficace, de plus rapide. Stéphanie Barbier, quand vous nous disiez, il y a des manuels, il y a des choses comme ça. L'idée, c'est aussi de simplifier les choses, de rendre cet accès à la photographie plus accessible.
Alors oui, plus accessible et puis et plus sûr. Alors on peut peut-être faire un petit saut dans la chronologie, quitter un tout petit peu le 19e siècle pour aller vers des innovations hein, comme ces ampoules hein, qui vont permettre hein, d'avoir un flash donc qui sera plus sûr. Hein, donc les premières ampoules qui vont être mises au point en 1925 hein, avec Paul Virketer. Le flash va contenir en fait donc on va avoir une ampoule avec un filament de magnésium qui va avec soi un courant électrique lorsqu'un courant électrique va passer à l'intérieur donc le magnésium va brûler et donc on va avoir toujours cette réaction qui permettra d'avoir cet éclair. Mais avec l'ampoule hein, on est dans une dimension déjà un petit peu plus sûr, hein, disons. Après, petit à petit, les choses vont évoluer. La problématique qui va se poser avec ces ampoules, c'est qu'elles sont à usage unique. Donc, dès l'instant que l'ampoule de magnésium est consumée, il faut la changer, la remplacer. Donc on va avoir progressivement une production de ces ampoules qui va se standardiser à partir de 1925, mais on voit hein, tout au long du XXe ou tout du moins dans cette première moitié du XXe siècle cette problématique hein, de remplacer ces ampoules, hein, voilà.
Oui, mais ce qui veut dire que ça nécessite un temps particulier pour prendre l'ancienne ampoule. Elle doit être brûlante en plus. Ça doit être délicat à enlever, peut-être en remettre une autre. Ce qui signifie, Flora Tribel, que dans les collections de la Bibliothèque nationale de France pour les photographies réalisées au flash ne sont pas exactement les mêmes que celles réalisées en plein air. C'est pas facile de faire des photographies au flash. Il faut poser un moment et que tout soit bien clair. On peut pas avoir des séries de photographies, par exemple, au flash.
Alors, de toute façon, en fonction de la période à laquelle vous exercez comme opérateur, la réalisation d'une photographie, elle n'est pas toujours très facile. Hein. C'est tout au
C'est bien de le rappeler.
Jusque dans les années 1880, au moment où précisément ce qui était évoqué par Stéphanie, cette standardisation à la fois des plaques, des appareils apparaît, jusqu'à ce moment-là, la pratique photographique n'est pas quelque chose qui peut être communément partagé. Donc les amateurs qui pratiquent la photographie avant ces années-là sont plutôt des experts et c'est cette période de transition qui ouvre la voie à de nouveaux praticiens qui sont ces amateurs d'où nous sommes aujourd'hui les héritiers, vous et moi, qui faisons de la photographie sans nous soucier de savoir faire de la photographie. Que ce soit dans ces années 1850, 60, ou ensuite quand il s'agit de maîtriser des techniques complexes comme le flash, ça demande une certaine technicité. Et c'est pour cela que, dans les années 1880, une série de photographes ou de diffuseurs de matériel photographique vont vouloir diffuser auprès des amateurs du matériel qui est facile d'usage. Et c'est le cas de la lampe Nadar, brevetée par Paul Nadar, qui va avoir cette idée d'un appareil qui ne présente pas de danger quand on l'emploie et qui est facile d'usage. Et effectivement, pour répondre à votre question sur les séries de photographies, c'était une question particulièrement intéressante parce que nous avons du mal, quand on regarde seulement les photographies, à dire avec systématicité si elle a été faite ou non au flash. Il y a certaines photographies, quand vous les regardez, vous savez qu'elle a été réalisée avec l'emploi du flash, parce que vous allez reconnaître des contrastes qui sont particuliers à l'emploi du flash, des contrastes très forts, ou parce que vous allez repérer ce halo du flash. Mais sur un très grand nombre de photographies qui sont réalisées au XXe siècle, vous ne pouvez pas dire avec certitude si c'est du flash qui est utilisé ou une autre lumière artificielle. Même pour tes photographies qui sont réalisées de nuit, parfois ce n'est pas du flash qui est utilisé, mais un apport de lumière artificielle d'une autre nature. Donc c'est un sujet technique très difficile, le flash, parce qu'il se dérobe un peu à son observateur et à son historien.
Daniel Folliard, c'est pertinent ce qui vient d'être dit là, parce qu'il nous faut de la lumière quand il n'y en a pas assez. Le flash, c'est une chose particulière avec l'éclair et de manière différente, on l'entend avec du magnésium, des ampoules, plein de choses. Et puis après, il peut y avoir d'autres apports de lumière. Et dès lors, ça multiplie les possibles pour photographier quand il n'y a pas assez de lumière.
Absolument. Et d'ailleurs, pour les photographes professionnels au XXe siècle, la clé, ça va être justement d'être les experts de ces apports de lumière. Parce que très vite, cette standardisation du flash va le transformer en un objet de photographie très populaire. C'est-à-dire qu'il va être assez vite identifié avec une pratique de... des gens comme vous et moi qui sont pas forcément des grands experts en photographie, parce que l'apport de l'éclair, notamment des flashbulbs, ça va être un des grands enjeux de Kodak dans les années 40, 50, 60, de produire des types de flash très peu coûteux qui vont permettre aux gens de pas rater leurs photos de Noël, ce qui est rarement le cas. Je sais pas si vous vous souvenez de ces petits appareils jetables qui déclenchaient systématiquement des flashs, ou les reflets dans les vitres et dans les miroirs et les visages surexposés des fêtes de famille faisaient partie du lot commun. Et ça, c'est un enjeu fondamental. D'ailleurs, ce développement-là, il fait qu'on utilise le mot flash en réalité. Parce que là, depuis le début de l'émission, on utilise un mot un peu anglais en réalité, hein, c'est un anglicisme. C'est un peu comme certaines marques d'objets ménagers. Le mot s'est imposé parce que les grands acteurs industriels du développement de cette popularisation de la lumière artificielle sont principalement du côté des États-Unis et aussi de l'Angleterre. Et en France, le mot flash, en réalité, il n'apparaît qu'assez tardivement, justement au moment où il y a cette popularisation, cette standardisation de la lumière artificielle en bouteille, mise en bouteille, hein, plus protégée, parce que en France, pendant longtemps, on parle plutôt d'éclairs magnésique, on parle de photopoudre, et le mot flash vient avec tout un imaginaire aussi, hein, parce qu'en anglais, to flash, ça veut dire plein de choses. Et ça, c'est important aussi de le rappeler aux auditeurs. On fait souvent une histoire technique tout à fait juste, hein, par les brevets, etc. On oublie à quel point cette histoire de la lumière maîtrisée, c'est aussi une histoire de nos imaginaires par rapport à ce qu'est la lumière, ce qu'elle fait, par rapport aux révélations. Hein, le mot en allemand, par exemple, c'est plutôt de l'ordre... Enfin, la racine, c'est Blitz. Il y a ce côté de l'irruption, hein, d'une forme d'un événement extrêmement court et rapide. En anglais, flash, bah vous le savez sans doute, hein, c'est aussi quelque chose qu'on utilise quand quelqu'un, un exhibitionniste, montre son corps, par exemple. Il y a vraiment cet arrière-plan d'une image qui intrusive, hein, qui vient s'imposer à la vue.
Et puis il y a l'usage qui est fait de ces flashs. Là aussi, nous retrouverons des corps, parce que l'usage médical, c'est un des domaines dans lequel le flash se déploie.
J'ai toujours été fascinée par les photos comme ça, médicales et sur l'hystérie. Je crois que, bon, Charcot prétend que l'hystérie ne se serait pas développée comme ça s'il n'y avait pas eu l'invention de la photographie en même temps. Et les femmes, Charcot a joué un grand rôle, les mettait, les théâtralisait pour les photographier. Et donc, je crois que là, elle jouait en plein le rôle de la séduction. Elle jouait vraiment. C'est une folie qui s'est exaspérée parce qu'elle n'avait que ce moyen-là de sortir leur théâtralité, leur féminité, de sortir quelque chose d'elle-même, de pouvoir faire quelque chose. Elles n'avaient que ça, leur corps, et le montrer, et le crier, le démesurer, ou bien rentrer dans une apathie terrible, ou c'est les deux, ou c'est un excès, ou bien au contraire un silence total. La photographie, comme ça, immobilise complètement et tue vraiment à cette seconde-là. Elle tue son modèle.
Annette Messager, artiste, plasticienne, qui en 1990 sur France Culture évoquait ses photographies médicales, celles de la fin du 19e siècle de Charcot. Daniel Folliard, là, on a tout un usage de la photographie. Toujours cette idée d'instantanéité qui correspond bien d'ailleurs à l'idée de flash d'éclair.
Absolument, on a plusieurs collègues, Michel Poivert, Georges Diberman, qui avaient exploré cette question des fonds photographiques de l'hôpital de la Salpêtrière, où on a cet homme, Albert Lond, qui est un des grands inventeurs de la photographie. Lui, il avait fait pas mal de chronophotographie. Il avait développé des systèmes d'obturation qui permettaient de descendre au centième de seconde pour créer des instantanés. Et lui, il va faire énormément d'expérimentations au flash, parce que le magnésium, Charcot l'utilise aussi pour déclencher des crises chez ses patientes et chez ses patients. Alors, pas forcément que pour éclairer, mais aussi parce qu'il y a un côté explosif et une lumière très puissante qui va avec... Alors, il utilise aussi des gongs, des percussions pour créer des réactions chez ses patientes. Et l'onde va non seulement explorer le magnésium comme déclencheur de crise, mais aussi comme un outil pour réaliser de la photographie au sein de son service photographique à l'hôpital de la Salpêtrière. Ce qui fait qu'en fait, si on regarde un petit peu l'histoire de ce monsieur, qui est un des rédacteurs d'un des principaux manuels sur la lumière artificielle, qui est publié en 1905, c'est probablement lui, ça a été le travail de Denis Bernard dans le numéro de Photographica, qui explore cet alignement clé entre le moment où on fait exploser la photopoudre et l'ouverture de l'obturateur, pour s'assurer qu'on obtienne l'optimum de lumière au moment où l'obturateur va s'ouvrir et se refermer, pour éviter le phénomène bien connu des yeux fermés, maintenant c'est plutôt les yeux rouges, et on atteint cette frontière technique avec des obturateurs électriques au tout début du XXe siècle.
Le photographe, c'est Albert Londe.
Albert Londe, oui.
Voilà, pas confondre avec le journaliste, hein, Albert Londe, Stéphanie Barbier. Ce qui vient d'être dit là, c'est l'enjeu majeur, réussir à ce que le flash se déclenche au pile bon moment dont on a besoin, ni trop tôt, ni après. C'est cette longue histoire aussi technique. Qu'est-ce que c'est difficile ?
Oui, c'est vrai que et ça l'est d'autant plus avec l'évolution du matériel, quand on va avoir ces fameux flashs électroniques où en fait le flash donc va se déclencher, la lumière va être beaucoup plus brève et donc il va falloir adapter, comme le disait Daniel, hein, les obturateurs, parce que par exemple le matériel de la fin du 19e avec des obturateurs à rideaux par exemple sont plus lents à se déclencher, ils suivent pas forcément la cadence, hein, de ces nouveaux flashs, et donc en effet, hein, les photographies vont être moins bien réussies, etc., tant que le matériel ne s'est pas adapté, hein, à ces nouveaux flashs. Donc il va falloir, hein, comme le rappelait Daniel, hein, avoir donc des obturateurs plus perfectionnés, hein, pour s'adapter à ces nouveaux dispositifs.
Nous ne pouvons pas détailler tout l'appareil photo, il faudrait parler d'objectifs. Nous parlons de ces différents éléments. Aujourd'hui, dans le cours de l'histoire, nous nous intéressons au flash avec Florent Tribel. Ces différents champs d'application, alors, il y a le portrait, il y a ce grand classique, hein, du monument, alors du monument sombre, pour le flash c'est intéressant, les photographies médicales, et puis peu à peu nous atteignons ce monde des arts. C'est ça aussi qui est passionnant, c'est comment le monde artistique s'empare d'une technologie pour créer, alors que à l'origine on n'est pas dans cette démarche-là, mais la transformer, en faire quelque chose de magnifique.
Oui, on peut notamment penser à l'activité photographique qui est très brève, mais très intense, d'Edgar Degas, qui est un photographe amateur, puisque c'est le peintre que vous connaissez, le graveur que l'on connaît aussi, et qui va, en 1895, se prendre vraiment de passion pour la photographie, et qui va la pratiquer totalement à rebours de la pratique des amateurs et des photographes professionnels de son temps, puisque lui, il va opérer le soir, uniquement avec des lumières artificielles. Il dit alors chercher la lumière des lampes ou lunaire, donc ça dit assez bien cette atmosphère lumineuse qu'il recherche. Et il va opérer donc en fermant les rideaux chez ses amis, notamment les Halévy, qu'il fait poser de manière assez théâtrale et sûrement assez tyrannique, en leur faisant prendre des pauses pendant des temps assez longs. Et on sait qu'il emploie à la fois ces lumières des lampes qu'il distribue dans ses prises de vue et qui créent des points aveugles, qu'il recherche d'ailleurs dans ses tirages, des points blancs comme des globes lumineux, et qu'il l'associe ponctuellement à l'usage du magnésium qui va encore transformer cet effet de clair-obscur qu'il cherche à créer dans ses photographies, un peu dans la continuité de son œuvre gravée. En tout cas, c'est ce qu'on avait essayé de montrer dans l'exposition qui avait été montée il y a 2 ans à la Bibliothèque nationale sous le commissariat d'Henri Loirette, qui montrait cette ligne mélodique du noir et blanc dans l'œuvre gravée et photographique de Degas.
Avec ici tant d'artistes qui s'emparent de la photographie et dans cette volonté de mettre en place des éléments artistiques à partir du flash, il y a la possibilité pour l'artiste d'explorer cet univers particulier qu'est la nuit. Brassailles.
Pendant très longtemps, je n'aimais pas du tout la photo. J'ai jamais fait la photo jusqu'à peu près à l'âge de 30 ans. Je me suis beaucoup promené à Paris, surtout la nuit. Et alors, je me suis demandé comment je pourrais saisir ces choses, et quelqu'un m'avait prêté un appareil, et c'est comme ça que je suis devenu photographe, en commençant à faire des photos de nuit. J'avais toujours envie de monter sur Notre-Dame la nuit et c'était impossible puisque on ferme à 5 heures la visite officielle. Alors j'essayais de corrompre la concierge et alors je lui offrais 100 francs. Et elle m'avait dit « J'ai tort, monsieur, j'ai tort ». Mais elle a pris l'argent et puis elle m'a donné rendez-vous. Elle m'a montré un réverbère en bas. Il a dit « Soyez là à 9 heures ». Alors elle a sorti, elle était là avec un énorme trousseau de clés et puis alors nous commencions monter sur l'escalier en colimaçon. Et elle m'avait dit qu'elle monte seulement une fois par jour parce qu'elle a une maladie de cœur qui lui empêche de monter 250 marches par jour. Elle a emmené son casse-croûte et quand nous sommes arrivés tout à fait en haut, elle a dit, n'est-ce pas monsieur, c'est tout de même, c'est autre chose que la Tour Eiffel.
C'est très joli.
Alors je suis monté encore plus haut et elle m'avait dit, je vous fais confiance, si vous voulez monter plus haut, je reste là. Alors je suis monté. Et deux fois, j'ai marché sur quelque chose d'un peu mou, et c'était des pigeons encore trop chauds, morts, parce que les pigeons meurent aussi.
En 1952, Brassailles qui évoquait son activité une vingtaine d'années plus tôt, hein, dans les années 1930, la photographie de nuit à Paris. Dites-nous, Florent Tribel, avec Edgar Degas, le peintre photographe, nous étions à la fin du 19e siècle, dans les années 1890. Là, nous sommes dans les années 1930, mais la démarche demeure artistique. Comment utiliser cette lumière très particulière, cette lumière éclair du flash pour l'artiste ?
Alors, l'extrait que vous avez passé est absolument merveilleux parce qu'il capture très bien la personnalité photographique qu'est Brassailles. C'est quelqu'un qui a un rapport assez désinvolte à la photographie. Il dit « je suis venu à la photographie tardivement ». Et effectivement, Brassailles, c'est d'abord un octambule qui arrive à Paris de Hongrie en 1924, qui donc vit la nuit. Il passe ses nuits de Montmartre à Montparnasse. Et qui, notamment du fait de son amitié avec un très grand photographe, qui lui aussi est arrivé à Paris au milieu des années 1920, qui s'appelle André Kertész. C'est grâce à cette amitié qu'il va se tourner vers la photographie. Aussi un peu, peut-être toujours pour ses raisons commerciales, parce qu'il s'agit quand même aussi d'apporter quelques illustrations photographiques aux articles qu'il rédige. Et il va progressivement prendre énormément de plaisir à traiter par la photographie ce sujet de la nuit parisienne qu'il aime tant traverser. Si bien qu'il publie en 1932 ce livre qui est devenu un classique aujourd'hui du livre d'histoire de la photographie qui est Paris de nuit. Et il n'est pas du tout le premier à réaliser ses photographies de Paris la nuit. C'est un sujet qui est complètement à la mode à ce moment-là. Mais il va réussir à retrouver la poésie de cette nuit, notamment, même s'il a un côté très désinvolte quand il parle de photographie, en maîtrisant tout de même différentes lumières artificielles. Donc il s'appuie, là il dit qu'il a rendez-vous au coin d'un réverbère, et effectivement les réverbères, les lumières des réverbères, c'est un point lumineux très important dans ses photographies, mais il va l'associer aussi à des éclairs, alors soit des éclairs magnésiques, soit ce dont parlait Stéphanie Barbier plus tôt, ses premiers flash bulbs qui existent aussi.
Les ampoules.
Et il va réussir, par l'emploi de ces lumières combinées, à photographier de manière très différente certaines scènes de la nuit. Il y a des scènes, par exemple, dans son corpus de Paris photographié la nuit, vous voyez des chats qui se promènent le long de grilles. Bon, bah, pour pouvoir photographier des chats, il faut quand même pouvoir être assez rapide. Donc ça, il emploie, on sait qu'il emploie les éclairs en magnésium à ce moment-là, qui lui permet de réaliser ses photographies au 1/50e de seconde, donc c'est très rapide. Mais il y a certaines photographies, notamment ces photographies prises depuis les ponts, vous avez des atmosphères extrêmement brumeuses, où là, le temps de pose est beaucoup plus long et où il n'ajoute aucune lumière artificielle. Donc c'est la lumière très, très diminuée qui va, par le temps de pose très long, réussir à inscrire le motif sur le négatif.
Flora Tribel, la nuit que vous nous proposez est très belle d'ailleurs, elle est poétique, sauf que la nuit, il ne se passe pas que ça. La nuit, c'est l'univers des crimes, des meurtres, qui fait peur. Et là aussi, le flash devient intéressant, Daniel Pauliard. On va avoir tout un univers qui va se développer, et notamment aux États-Unis, avec la volonté de saisir dans la nuit ce qu'il peut y avoir de plus sombre.
Oui, parce que l'éclair magnésique, il a ce côté quand même un peu sans phare, quoi. Il projette une lumière blanche sur des réalités qui peuvent être très dures, hein, que parfois les gens ne voient pas, hein, parce que la nuit, le bon bourgeois dort. Il veut bien regarder ce qui s'y passe le matin dans le journal, mais le flash, l'éclair magnésique, puis le flash plus tard, ça va vraiment faire partie d'une esthétique de cette révélation des mondes nocturnes. Alors, le grand nom dont je vais parler tout de suite, c'est Ouija. Mais avant lui, on a des gens comme Génio en France, par exemple, qui utilisent le flash pour photographier les hôtels à bas coût de la rue Saint-Denis. Là, c'est plutôt une pratique privée. L'autre personne très connue que les auditeurs et auditrices connaissent peut-être, c'est Jacob Riis, qui dans les années 1880 à New York va utiliser l'éclair magnésique pour aller photographier les taudis. Du New York très pauvre et va publier un livre qui va être un livre majeur à la fois de l'histoire de la photographie et de l'histoire de la question sociale qui s'appelle « Comment l'autre moitié vit ?» en français, qui va être une révélation de cette extrême pauvreté. Et lui, dans sa pratique, c'est vraiment le flash qui va venir réveiller ces migrants, ces gens en très grande difficulté sociale dans leur chambre pauvrement meublée. Et Ouija s'inscrit dans cette dimension esthétique du flash qui va être reprise aussi dans la seconde moitié du XXe siècle, c'est-à-dire cette projection comme ça d'une lumière un peu intrusive. Alors lui, c'est vraiment la marque de fabrique. En fait, lui, au début, il se forme dans un studio où c'est lui qui manipule la poudre magnésique en réalité. Donc il a déjà une sorte de familiarité avec cet objet. Il va devenir le photographe de la nuit du crime à New York, hein, notamment. Donc les photos, vous les connaissez, hein, ces images de corps sur le sol. Il a une radio de la police qui lui permet d'arriver très très vite sur le site des crimes ou des incendies. Et le flash, dans son immédiateté, hein, Stéphanie disait qu'on se rapprochait vraiment d'un instant extrêmement court, lui va lui permettre, au milieu de la panique, au milieu du mouvement fou de ce qui se passe quand il y a un crime ou un incendie, d'aller au cœur de ce qu'est la photographie. C'est la fixation d'un tout petit instant. Donc ça va à contre-temps un petit peu de l'événement. Et chez Ouija, c'est vraiment quelque chose, et chez beaucoup d'utilisateurs du flash professionnel, c'est vraiment quelque chose qu'ils recherchent. C'est cette sorte d'opposition marquée entre ce que le flash va pouvoir enregistrer socialement et esthétiquement, et puis le mouvement de la vie humaine, en fait. Il est une sorte de contrepoint, en quelque sorte.
Oui, ce sont ces gros appareils photo, mais nous les voyons bien hein, dans les films, avec l'appareil photo qu'on tient presque de chaque côté, accroché une sorte de tige avec ce gros rond. C'est là où l'on place l'ampoule, enfin le flash, Stéphanie Barbier. Là, c'est aussi le progrès technique qui permet de réaliser ce type de photographie. C'est beaucoup moins lourd, c'est beaucoup plus facile d'utilisation.
Alors Ouija, il utilise une torche flash Graflex. D'a priori, c'est donc un dispositif autour de 1945. Là encore, hein, on est toujours avec des ampoules à usage unique. Hein, donc Ouija, bon, il est équipé, hein, mais c'est vrai que ces photojournalistes, ces reporters, hein, ils vont devoir à la fois se doter hein, d'un certain nombre d'ampoules hein, pour réaliser ces prises de vue. Alors après, avec l'évolution des dispositifs et donc l'apparition du flash électronique, on va avoir les choses se simplifier et donc le matériel progressivement s'alléger hein, pour ses protagonistes. Hein.
Avec tant de scientifiques et de photographes qui, peu à peu, apportent ces innovations, ces évolutions de la photographie. L'exemple avec Bérénice Abbott.
J'ai dû faire de nombreux tests et j'ai découvert que si je plaçais le papier aussi loin que possible du bac, les ondes se mettraient au point d'elles-mêmes, comme une lentille, et qu'à une certaine distance, les ondes enregistrées seraient vraiment grandes. Ensuite, j'ai eu besoin d'un stroboscope plus rapide. Les lumières dont disposaient Harold Edgerton au MIT étaient très primitives et j'avais besoin d'une lampe extrêmement rapide pour figer l'action. Il n'y avait pas d'appareil photo, pas d'objectif. J'ai finalement conçu un système consistant à placer un trou d'épingle sur la source de lumière. La combinaison de la source de lumière concentrée et du papier sensibilisé loin du plateau a résolu les problèmes de base.
Auriane Delacroix dans le cours de l'histoire qui disait ici ce que pouvait dire Bérénice Abbott. Nous étions en 1958, c'est vous, hein, Stéphanie Barbier, qui avez traduit ce texte-là. Qui est Bérénice Abbott ?
Alors Bérénice Abbott, donc c'est une photographe qui est à la fois qui est à la fois une spécialiste de technique s'il en est, puisque on parle beaucoup des photographies qu'elle réalise avec la série notamment Changing New York qui est l'une des séries les plus connues où elle va documenter à la manière dont l'a fait Eugène Adjei donc les transformations. Alors Eugène Adjei l'a fait pour les transformations du vieux Paris. Bérénice Abbott va photographier New York quant à elle, mais ce qu'on oublie un petit peu de mentionner à son égard, c'est que c'est une photographe qui a une maîtrise technique parfaite. Elle va notamment lancer elle va monter une petite entreprise qui s'appelle The House of Photography, où elle va déposer quelques brevets pour essayer de perfectionner les dispositifs. Elle va également publier elle aussi plusieurs manuels, notamment en 1941 A Guide to Better Photograph. Et donc c'est en cela que c'est intéressant. Alors il faut pas non plus mettre la technique à une place qu'elle n'a pas. Les photographes ont une approche assez pragmatique de la technique et l'utilisent pour réaliser les photographies qu'ils souhaitent réaliser. Mais Bérénice Abbott, ce qui est intéressant, c'est qu'à la fois donc, elle a cette maîtrise technique, et dans l'extrait que vous avez passé, elle va, dans le cadre du MIT et dans ce contexte de la guerre froide où on va tenter de documenter les sciences, de tenter d'intéresser les jeunes Américains à la science, elle va collaborer avec le MIT pour réaliser des manuels scolaires, vulgariser les phénomènes scientifiques. Et donc la photographie, là ici, la maîtrise technique de la photographie, elle va se faire dans un but vraiment pédagogique, vraiment expliciter les phénomènes scientifiques. Et donc le flash en particulier va permettre notamment d'étudier le mouvement d'une balle, par exemple, voilà.
Ah oui, parce que il est dès lors possible, et nous connaissons tous ces photographies-là, d'avoir la photographie d'une balle, alors qu'elle va à une vitesse absolument folle, mais non, ça y est, elle est saisie. Et ça aussi, ça intéresse, dès lors, Daniel Folliard, comme vous nous le disiez, c'est du commerce et de l'économie. Ceux qui souhaitent avoir des photos, et particulièrement en prise rapidement, des photos volées, les paparazzi, tout ça entre dans notre imaginaire du flash, et nous avons vu tant et tant de scènes de films avec des flashs qui crépitent, et puis nous savons comment ça se passe encore aujourd'hui.
Absolument, ça va vraiment être dans notre imaginaire, là, c'est vraiment le marqueur de l'intrusion du paparazzi. Alors, celui qui crée un peu qui va le filmer magnifiquement, c'est Fellini dans la Dolce Vita, évidemment, que vous connaissez bien. Mais de manière générale, c'est quelque chose qui va rester très présent parce que cet encodage culturel du flash comme intrusion, c'est quelque chose qui reste sur toute la seconde moitié du XXe siècle. Vous avez des photographes, par exemple, comme je pense à Diane Arbus, qui vont utiliser cette esthétique un peu de l'intrusivité de l'éclair magnésique, du snapshot, du côté un peu cheap du photojournalisme de mauvaise qualité. Tout ce contre quoi, par exemple, des gens comme Cartier-Bresson se levaient, parce qu'il y avait ce goût chez lui de la lumière naturelle. Donc une forme de vulgarité, en quelque sorte, qui va être liée très fortement à l'histoire esthétique du flash à partir de la seconde moitié du XXe siècle.
Please, miss, vous dormez en pyjama ou en chemise de nuit?
How do you sleep in pyjama, my God?
Par ici, le flash.
Neither. I sleep only in two drops of French perfume.
Il ne porte que deux gouttes de parfum français.
Muy bien, madame, muy bien.
What do you think you like most in life?
I like lots of things, but there are three things I like most. Love, love and love.
Un petit clin d'œil à la Dolce Vita, le film de Federico Fellini en 1960. Flora Tribel. Maintenant, nous avons notre panorama gigantesque de l'usage du flash en photographie. Et cette aventure-là, c'est une aventure qui s'écrit en un siècle. Si nous nous situons à ce moment-là, au milieu du XXe siècle, voilà, ça fait un siècle qu'on a des flashs. Et désormais, on sent bien que le flash est partout, au sens où ce n'est plus juste un usage pour le portrait. C'est devenu un usage très courant, le flash. Et dès lors, pour classer les photographies, je reviens sur votre mission, spéciaux hein, à la Bibliothèque nationale de France. Il n'y a plus des photos d'artistes. Il y en a, mais il y a tous ces usages différents. C'est très difficile hein, dès lors de savoir dans quel champ nous nous trouvons, sachant qu'avec des personnages comme Ouija, on est quelque part dans la photo de presse à sensation et également dans l'art.
Mais en réalité, dès les débuts de la photographie étant un médium qui saisit la réalité, on est toujours à la fois dans la création d'une image, un cadrage, une lumière qui transforme ce qui est observé et en même temps une empreinte de la réalité. Donc ce côté à la fois documentaire et artistique, il existe dès les débuts de la photographie et nous, dans nos façons de classer, de conserver les photographies, il y a eu un vrai basculement il y a une cinquantaine, une quarantaine d'années où effectivement des photographies qui jusque-là étaient plutôt classées uniquement sous un angle iconographique et documentaire ont été sorties de ce classement unique pour être reversées à des œuvres d'auteurs. Donc il y a eu un vrai changement de perception de la photographie, ce qui ne veut pas dire que les images des photographes seraient devenus uniquement artistiques, esthétiques, ou ne seraient vus qu'à travers cet angle-là. Je pense que dans tout corpus photographique, il y a toujours ce double enjeu, à la fois de ce que ça représente et la façon dont c'est représenté.
Avec ici tant de moyens de photographier, hein, on sent bien que tout cela se développe, quelque chose de beaucoup plus accessible. Nous avons évoqué avec Nadar la volonté de photographie aérienne en montgolfière, de photographie souterraine aussi. Nous étions dans les catacombes, bon, bah, sur Terre, ça on voit très bien ce que c'est. Et pourquoi pas sous l'eau aussi.
Où se trouve exactement Bimini?
Eh bien, Bimini est sur le bord ouest du grand plateau des Bahamas, donc au large de la Floride et au nord de Cuba en même temps.
Et comment ces ruines ont été découvertes? Comment elles se présentent-elles? Est-ce qu'elles émergent de l'eau?
Eh bien, non, elles n'émergent pas de l'eau, mais elles sont visibles depuis l'avion. Aucune ruine aujourd'hui, sauf dans des endroits très protégés, tels que dans certains ports grecs, n'émergent de l'eau parce qu'elles seraient détruites par l'action des vagues. Les ruines sont conservées, au contraire, quand elles se trouvent suffisamment profondes. Comme vous savez, je me suis attaché à faire de la photogrammétrie, c'est-à-dire de la mesure photographique par stéréoscopie de tout cet ensemble. J'ai maintenant une carte photogrammétrique tout à fait équivalente à une carte aérienne de précision d'aujourd'hui. J'ai donc des mesures précises de tout l'ensemble. Et nous comparons maintenant les dimensions, les proportions, les poids relatifs des pierres. Et il y a certaines similitudes très troublantes. Par exemple, le poids des pierres, qui varie entre 6 et 25 tonnes, ce qui sont des poids tout à fait courants pour les monuments mégalithiques européens tels que Allée Couverte et Dolmen.
En 1971, Dimitri Ribikov était de passage sur France Culture, parlait des civilisations, donc l'outil de Bimini. Mais dites-nous, Stéphanie Barbier, que vient-il faire dans une histoire du flash à cet homme-là?
Alors oui, Dimitri Ribikov, c'est donc un homme. Donc il est né à Paris en 1921. Il est initié à l'ingénierie dans l'atelier de son grand-père. Il va gagner sa vie et payer ses études en réparant des postes de radio et des montres. Et puis en fait, après la guerre, il va revenir à Paris. Il en vient à la photographie par le reportage de presse. C'est par cette pratique de la photographie qu'il va travailler au perfectionnement du flash. Alors c'est une personnalité qui est assez modeste en réalité, hein, puisque quand il rédige un certain nombre de manuels et d'articles techniques sur le flash, en fait l'historique qu'il propose généralement, il s'arrête avec Harold Edgerton et il ne se mentionne même pas lui-même. Alors que pourtant ses premières recherches donc effectuées à partir de 1943, hein, pour perfectionner le flash, elles vont émerger hein, en parallèle hein, de celles d'Harold Edgerton aux États-Unis. Et donc Dimitri Ribikov, c'est avec lui en fait que va arriver en Europe le flash électronique.
Et ça, c'est un véritable progrès, ce flash électronique.
Oui, c'est un véritable progrès, puisque c'est une invention qui va permettre donc de pratiquer le flash de manière plus sûre. Hein. On l'a vu, hein, combien c'était difficile de pratiquer le flash avec l'éclair magnésique. Donc, ça va permettre d'avoir des photographies, donc un usage donc plus sûr, plus efficace aussi. Et donc, Rebikov, il va être très vite contacté, en fait, par Henri Broussard, qui va être le président du club alpin sous-marin. Et donc, il va lui demander de perfectionner ses techniques du flash un peu plus pour réaliser des photographies sous-marines. Donc, d'adapter le dispositif du flash électronique à la pratique de la photographie sous-marine.
A-t-on une période comme un âge d'or du flash? Ou, pour le dire autrement, j'ai comme la sensation qu'aujourd'hui, bon, le flash est beaucoup moins utilisé. Alors, sachant que beaucoup de photographies sont réalisées avec nos téléphones portatifs, mais rarement avec du flash. Daniel Folliard, comment vous le percevez, vous? Il y a un âge d'or et puis...
L'âge d'or, ce serait vraiment la seconde moitié du XXe siècle, avec la conjonction de cette culture du photojournalisme, cette culture de la célébrité, on a évoqué avec les paparazzi, et le fait que une partie des gens peuvent s'acheter des appareils photos qui, Kodak, hein, vend des appareils photos assez peu coûteux qui permettent assez rapidement de faire de la photo au flash. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui imitent, comme on le fait aujourd'hui avec nos selfies, la pratique professionnelle, hein, c'est cette porosité que Flora a évoquée. Aujourd'hui, c'est assez compliqué, en fait, les photographes professionnels ne peuvent pas trouver dans la lumière LED qui est beaucoup utilisée parce qu'elle est très facile à contrôler. C'est-à-dire qu'on peut vraiment choisir l'intensité, le spectre lumineux qu'on veut pour réaliser ces photos. Mais l'équivalent d'une photo dans l'hyper immédiateté qu'on a évoqué, c'est difficile à faire aujourd'hui sans un flash au xénon. C'est quasiment irremplaçable par le LED. Le flash au xénon, c'est vraiment, il y a un punch lumineux tellement fort que certains artistes, on l'a vu un peu à Photo Paris, la grande messe photographique qui a lieu chaque automne, un retour quelquefois à cette technologie-là, parce que finalement, on parle toujours de progrès comme si c'était linéaire. Imiter le xénon, c'est pas si simple que ça. Retrouver cette hyper immédiateté de l'image de la personne saisie comme ça dans une lumière blanche très intrusive, très agressive, c'est quelque chose qui finalement est très difficile à reproduire avec les technologies actuelles.
Un éclair de raison, un éclair de génie aussi. Je reprends le titre, Flora Tribel, de la livraison que vous avez donné pour Photographica, la revue aveuglée pour voir flash et les révélations. C'est le numéro qui nous intéresse. La lampe Nadar, une source pour l'histoire du flash. Puisque c'est ça aussi, c'est combien ces procédés aux origines sont innovantes et efficaces. Nous sommes toujours surpris de voir la précision de ces photos anciennes.
Absolument, et ça c'est aussi parce que un photographe comme Paul Nadar a tout à fait compris qu'il fallait s'ajuster à la modernité, c'est-à-dire qu'il y a les temps héroïques, ces années 1850, 1860, où tout est toujours nouveau, alors qu'on est toujours pionnier quand on invente quelque chose, mais les photographes Paul Nadar, mais ensuite tous ceux qu'on a évoqués, eux, il y a une masse de propositions qui est beaucoup plus importante techniquement, et donc ils doivent s'ajuster à cette modernité et un peu essayer de courir aussi après cette modernité qui est permise par la technique.
Et la modernité, donc, à vous écouter, Daniel Folliard, elle est un peu dans le passé. C'est-à-dire que la lampe LED aujourd'hui est un tantinet pas assez belle. Donc LED pour faire de si jolies photos.
Oui, il y a un côté, de cet ordre-là. C'est assez intéressant dans l'évolution technologique. Alors après, on est hanté. Hein. Maintenant, ces images au flash, c'est un peu les zombies. C'est les images zombies de nos datasets. Quand vous vous amusez, par exemple, à faire un prompt sur les nombreuses plateformes d'intelligence artificielle, en demandant une photo de New York dans les années 30, vous allez avoir une esthétique Ouija. C'est-à-dire qu'il y a un resurgissement par ailleurs de cette esthétique dans la génération d'images.
Merci vivement pour vos lumières, évidemment, à tous les trois. Stéphanie Barbier, Flora Tribel et Daniel Folliard. Daniel Folliard, d'ailleurs, je rappelle que vous étiez venu dans le cours de l'histoire pour une émission « Histoire et numérique, les images du passé au défi du présent ». Et c'était particulièrement éclairant pour notre présent. C'est à retrouver sur franceculture.fr et l'application Radio France. Merci vivement. Merci à tous les trois.
Merci.
Regarde, Doudou, dans la grande malle, sous les déguisements, il y a une boîte à chaussures remplie de vieilles photos. Il y a des photos en noir et blanc, des photos en couleur.
Oh !
Il y a même des photos de nous deux.
Mmh ?
Regarde, Doudou, tu te souviens ?
Mmh ?
On était partis en vacances au bord de la mer.
Tout doux, mon doudou. Mais oui, la série de Zoé Vary à retrouver sur Radio France, l'appli Radio France, parce que demain, dans le cours de l'histoire, 1, 2, 3, Ouistiti, l'histoire de la photo amateur. Le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Thomas Beau à la technique, Paul Guig. Émission préparée par Jeanne Delecroix, Raphaël Laloum, Jeanne Copé, Solène Roy et Mayouen Guizhou. Le cours de l'histoire à retrouver à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.